Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
L'air en forme, je te relaxe.
Il y a quelqu'un.
Comment on va être bien ici?
Psst, l'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je n'ai pas du tout le vertige, mais j'ai peur du vide. C'est très différent. Cette crainte est d'ailleurs assez répandue dans mon métier. La frousse que l'invité ne vienne pas en studio. Et même qu'il ou elle n'ait rien à dire. Peur du silence aussi. C'est beau les silences à la radio, mais point trop n'en faut. Dans la vie de tous les jours, pourtant, nous en avons besoin. Les bienfaits du silence, ce sera le sujet de la deuxième heure de cette émission. Et dans la première heure, parlons des petites béquilles qui nous servent à meubler le vide partout, tout le temps, dans nos conversations. L'éthique de langage. Il n'y a pas de souci, c'est clair, carrément. On fait comme ça, voili voilou. Ah, je l'aime beaucoup, moi, celui-là, voili voilou. Des locutions qui ne disent rien, qui n'ont aucun sens particulier, mais qui mettent du liant dans une phrase, qui disent un sentiment d'appartenance aussi. Et si, pour une fois, on essayait d'en parler sans les stigmatiser? Il est de bon ton de crier haro sur l'éthique de langage, mais tout le monde en emploie. C'est bien qu'ils sont rassurants, utiles, efficaces, non? Je dis ça, je dis rien. Bon, cette première heure d'émission est la vôtre, chers auditeurs et auditrices. Appelez-nous 01 45 24 7000. Vous avez le droit de dire du mal des éthiques de langage, évidemment, mais aussi du bien. On pourra se lancer dans un inventaire joyeux des plus jolis et des plus drôles. Vive l'éthique de langage! Soyez les bienvenus.
Dorothée Barba, 9h-11h, sur France Inter.
Aucune peur du vide aujourd'hui, mes invités sont bien là et ils sont loquaces, je suis ravie de les accueillir. Bonjour Laëlia Véron.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous Merci. Êtes linguiste, maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans et vous avez publié avec Maria Candéa « Le français est à nous » aux éditions de La Découverte, un petit manuel d'émancipation linguistique. Vous êtes également aux commandes d'un podcast baptisé « Parler comme jamais », quel joli titre.
On se retrouve.
Et vous êtes, je crois, un peu agacée par cette tendance général à dire du mal d'éthique de langage?
Je pense qu'en tout cas, il faut aller plus loin parce que si tout le monde les utilise, comme vous dites, c'est bien qu'ils servent à quelque chose et que ça ne peut pas être juste qu'on parle mal. Donc, on va en discuter, super.
À vos côtés, nous avons invité un journaliste qui fait des blagues. Je ne vois pas comment vous présenter autrement.
Non, c'est ça.
Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour.
Bienvenue. Je suis très heureuse de vous recevoir car je fais partie de la grande communauté des fans de Depuis quand? C'est une pastille diffusée sur Canal+, dans laquelle vous posez des questions existentielle, hein, du type « depuis quand ça existe, les stagiaires de troisième ?»
Oui.
Voilà. Ou « depuis quand les gens disent-ils « belle journée » au lieu de « bonne journée » ?» C'est très drôle, mais ce sont aussi de vraies enquêtes. Hein. Vous donnez de votre personne pour répondre à toutes ces questions et vous avez travaillé sur l'éthique de langage.
Un des trucs que je préfère dans la vie, c'est écouter les gens parler et remarquer les trucs chelous. Par exemple, les gens qui rajoutent à tous les mots des suffixes qui n'existent pas.
Bien sympatoche, ce petit brunchounet. Hein. Bien coolos. Max.
Les gens qui disent soyons fous alors qu'en fait ils sont pas du tout fous.
Tu veux encore du pain?
Allez, soyons fous. Ou les gens qui mettent des mots espagnols dans leurs phrases alors qu'ils sont pas du tout espagnols.
Allez, hasta luego amigo.
Tu rentres à la casa?
Ouais, fini la fiesta.
Bonjour à ton padre, hein.
Yes, gracias.
Et puis j'aime bien aussi remarquer les nouvelles expressions qui apparaissent.
Comme le fait que maintenant quand on va au restaurant on dit
je crois que je vais partir sur le fromage de chèvre.
Tu peux pas partir sur le fromage de chèvre. Tu peux le manger si tu veux mais ce n'est pas un moyen de locomotion. Fais attention.
Belle journée à vous.
Belle journée à vous aussi, David Castello-Lopez. C'est un sujet sur lequel, malheureusement, on n'obtient pas de réponse précise hein, quand on se demande depuis quand ça existe. Mais ça n'enlève rien à votre fascination. Pourquoi vous fascine-t-il, l'éthique de langage?
Je sais pas, mais parce que c'est des trucs surtout qu'on voit apparaître mystérieusement. Et c'est ça qui, moi, je trouve, qui me fascine un petit peu, c'est que sur le Belle Journée, par exemple, je l'ai vu arriver. Et personne n'a décidé qu'on allait commencer à dire Belle Journée.
Mais pourquoi ce serait moins bien que Bonne Journée?
Mais non, mais en plus, moi, je trouve que on pourrait dire, sur Belle Journée, en tout cas, on pourrait même dire que c'est mieux. Parce que ça vient du fait que, à force de dire Bonne Journée.
On en a eu ras-le-bol, quoi.
Mais plus personne la personne ne nous dit pas vraiment, ne souhaite pas vraiment une bonne journée. Donc comment faire pour que on ait vraiment l'impression que on souhaite vraiment une bonne journée? Faut changer un petit peu le mot et du coup ça devient belle.
Formidable journée, ce
ou excellente, ou
excellente.
Ou super.
Cette question du depuis quand ça existe, Laëlia Véron, elle vertigineuses hein, dès lors qu'on parle de la langue. C'est très compliqué de savoir de quand date l'apparition d'un tic de langage. Comment identifier le patient zéro finalement ?
Identifier le patient zéro, effectivement, c'est compliqué. Mais maintenant, ça dépend de quelle époque on parle, mais maintenant on a quand même plus de moyens d'enregistrer non pas le patient zéro, mais en tout cas des nouveaux usages qui sont quelquefois massifs, notamment parce que maintenant on essaie de travailler sur des corpus oraux et on identifie des moments, même si effectivement il y a un côté mystérieux. Je suis tout à fait d'accord avec l'exemple belle journée, bonne journée. C'est parce qu'on a besoin des fois aussi
de tout le penser simplement vraiment.
Oui, de nouveau, c'est notamment le cas pour tout ce qu'on appelle les intensifieurs. Très giga, top. Toutes les générations ont besoin d'en inventer des nouvelles carrément, excellent, grave, etc. Parce que il faut les renouveler, il faut leur redonner une intensité.
Donc vous diriez aussi que belle journée, c'est plus sincère que bonne journée.
En tout cas, c'est bonne journée devenait figé. Et donc on a essayé de le défiger un petit peu. Et puis on peut peut-être faire des liens avec belle au sens d'agréable, hein, agréable journée, ouais. Belle journée au sens esthétique, c'est joli comme jeu avec la langue.
Je voudrais qu'on s'attaque d'emblée à ce mot tic. Un tic, c'est un mouvement impulsif, involontaire qu'on répète, hein, comme quand on cligne des yeux ou qu'on secoue la main sans le vouloir. C'est rarement présenté comme quelque chose de positif. Il y a un jugement de valeur évident dans l'emploi du mot tic quand on parle des tics de langage.
Oui, tout à fait. Les linguistes, quand on nous demande qu'est-ce que vous pensez des tics de langage, on va être pénible. On va déjà critiquer l'étiquette parce qu'effectivement, le mot tic, c'est pas une étiquette linguistique, déjà on met des choses très très différentes dedans, ça va plutôt être un jugement. Et au départ, qu'est-ce que c'est le mot tic étymologiquement ? C'est un mouvement du cheval et c'est lié à un roc, hein. Donc vous voyez, quand on dit que c'est stigmatisant, c'est ça. C'est le cheval qui a une espèce de roc qui lui fait lever la tête.
Ça vient de l'italien, c'est ça ?
Ah oui, c'est ça. Et vraiment, hein, donc on voit bien à quel point c'est stigmatisant, c'est considéré comme quelque chose de moche. C'est devenu donc ce geste du cheval, puis ce geste du visage, et effectivement après un geste langagier, une habitude langagière. Et il y a tout de suite un jugement de valeur. Quand on dit que c'est un tic, c'est quelque chose dont il faudrait se débarrasser. C'est ça qui est sous-entendu dans le mot tic de langage, alors que l'expression plus neutre, ce serait peut-être habitude de langage.
J'entends bien votre volonté de ne pas les stigmatiser. Vous reconnaissez quand même que parfois c'est agaçant.
Ah mais tout à fait, ça peut être agaçant. Ce que je trouve absurde, c'est quand on dit il faut les éradiquer. Parce que tout simplement, ce sont des mots. Moi j'ai regardé sur internet ce qu'on définit comme type du langage. Il y a par exemple, effectivement, c'est clair, je comprends. Si on supprime ces mots-là de notre langue, on va avoir du mal à communiquer. Qui voudrait supprimer effectivement ? Ça peut être très bien employé dans un discours qu'on ne va pas du tout stigmatiser, d'argumentation par exemple, pour montrer des liens logiques. Donc ce qui peut être important avec les tics du langage, c'est de les maîtriser et de surtout pas. En fait, ce qui agace, c'est quand ils soient répétés. Mais en soi, ce sont des mots qui n'ont rien de désobligeant et on les emploie, on en a besoin.
Balayons chacun devant notre porte. Lequel employez-vous le plus, David Castello-Lopez ?
Moi, je dis beaucoup exaltant.
Voilà. Ah ouais ?
Ouais, c'est un truc personnel, quoi. Ça peut le dire comme tu dis, mais je le dis plus que la moyenne des gens, quoi. Et moi, je pense que sur les tics de langage, il y a quand même ce truc de, il y a un snobisme, quoi. C'est on est content de les remarquer, de se dire, moi, je les ai pas. Moi, je fais partie des gens qui maîtrisent leur langue.
Et ça, c'est très exaltant.
Ça c'est hyper agréable et on se sent conforté dans ce qu'on est. Moi j'ai pas de tic de langage, moi je maîtrise ma langue, moi je suis pas un plouc. Et je pense que au moins les tics de langage chez les autres, ça fait plaisir à ceux qui les ont pas.
Voilà. C'est ça, on remarque toujours ceux des autres alors qu'on en a tous, mais c'est ceux des autres qu'on va remarquer et stigmatiser, on n'entend pas les nôtres.
Je viens de dire à l'instant ah ouais et je m'en suis immédiatement voulu parce qu'on dit pas ah ouais à la radio. Moi on m'a toujours dit quand j'étais petite ouais c'est laid, oui c'est joli. Est-ce un tic de langage là, il y a
Alors,
ouais.
Ça peut être considéré comme un tic de langage au niveau de la prononciation, parce que les tics de langage, ça peut être
décidément.
Le lexique, mais ça peut être aussi la prononciation. Effectivement, ouais, c'est une déformation de oui, mais ce qui est drôle, c'est que il est entré dans le dictionnaire maintenant comme un mot différent. Il a passé le cap de l'écrit maintenant.
Voilà, c'est un mot noble, alors ouais, O-U-A-I-S.
Alors, je sais pas s'il est noble, hein, parce qu'il n'y a pas que des mots nobles dans le dictionnaire, mais en tout cas, c'est un mot.
Allez, on attend les réactions des auditeurs, vos tics de langage préférés, ceux que vous détestez. 01 45 24 7000, Anna Derien et Juliette Douer sont au standard.
Wedlock, les poissons. Oxygène l'emmêlé. Zion pas même où c'est. Zion pas même où c'est. Zion pas même où c'est. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Lâche du fait.
Mais ça fait du bien ça, David Walters avec Sean Couty. La programmation musicale est signée Djoubaka. Émission préparée par Margot Page et Nicolas Bove, réalisée par Anne-Cécile Perrin. Elisabeth Collet est à la technique.
Tu m'excuses deux minutes, je vais m'acheter du gel hydroalcoolique.
L'été comme jamais. Dorothée Barba.
Rien que te voir tripoter tous ces trucs, ça me démange de partout.
Et on se penche sur les tics de langage ce matin avec Laëlia Véron, linguiste, et David Castello-Lopez, journaliste, le papa des « Depuis quand ça existe ?» sur Canal+. Un auditeur est en ligne et nous a appelé au standard de France Inter. Bonjour Gérard.
Bonjour, bonjour Dorothée, bonjour à toute l'équipe, comment allez-vous ?
Ça va fort bien ma foi. Vous êtes un résistant, je crois, un combattant des tics de langage.
Ah, un combattant, ouais. Un combattant.
Dites-nous ça.
Qui est un petit peu dépité parce que on essaye de tordre le cou au du cou avec quelques résistants.
Il y a du boulot en la matière.
Il y a du boulot, d'autant plus qu'il est viral comme le coronavirus, vous voyez.
Il se répand plus vite.
Dans la bouche des plus jeunes. Moi, j'ai des petits-enfants maintenant, je suis un papy. Mm-hmm. Des petits-enfants qui ont à peine quelques 18 mois ou 2 ans, vous voyez, qui utilisent déjà le du coup.
Pourriez-vous nous dire, Gérard, ce qui vous dérange profondément dans le du coup ?
C'est-à-dire que je l'entends et il résonne très fort à mes oreilles. Mmh. Et je l'entends à tort et à travers. C'est vraiment
sans lien de cause à effet, parce que c'est censé introduire un lien de cause à effet, hein, du coup.
Oui, alors que récemment, dans un supermarché, une chef de rayon qui voyait qu'une de ses employées avait renversé un pot de moutarde au sol, lui demandait de passer un coup de serpillière. Et elle lui a dit... Alors vous mettrez un coup du coup.
Oh mais c'est magnifique ça, Gérard. Ben
oui, c'est magnifique, mais moi ça me.
La rime est riche. Oui, bon, voilà.
Elle est très belle. Une autre fois dans un magasin de laine et de bonnets et d'écharpes, je préparais un séjour au ski et puis j'ai acheté un bonnet et la vendeuse me dit vous prendrez peut-être un tour du coup.
Oui. Voilà, on sent bien que ce combat n'est pas un combat enragé ni vraiment agacé.
Non,
merci beaucoup pour merci
mais
beaucoup pour ce coup de fil, Gérard.
Du coup est en début de phrase, en milieu de phrase, en fin de phrase.
On le met partout. On va demander l'avis de notre spécialiste. Je vous souhaite une très belle journée, puisqu'on a le droit de le dire. Merci à vous. Laëlia Véron, il vous agace aussi, ce du coup, ou pas du tout du
Moi,
coup
je crois que c'est un de mes tics de langage. On m'a déjà fait remarquer. Moi, pour le coup, je pense que je suis touchée. Je suis touchée par ça. Mais voilà, dans ce qu'on a entendu, bon, peut-être que ça agace notre auditeur Gérard, mais bon, qui non, nous a montré aussi amuse, que ça pouvait sûr. Être assez poétique. Mais moi, dans la prise de parole de Gérard, j'ai noté au moins deux fois, vous voyez.
Donc,
vous voyez, chacun a ses tics de langage, et peut-être qu'il n'entend pas, vous voyez, qu'il entend du coup. Et c'est aussi, effectivement, les tics de langage, ça peut être individuel, social, générationnel. Gérard nous parlait de ses petits-enfants, oui, des fois, les générations ont leurs tics de langage.
Et c'est une manière de marquer son sentiment d'appartenance.
Oui, parce qu'on s'imite tous. Alors là, c'est aussi quelque chose qu'on peut noter. Vous avez sans doute pris les tics de langage de votre entourage quand vous demandez pourquoi j'ai tout le temps cette expression. Souvent, c'est quelqu'un dans votre entourage là et vous l'imitez. Mais à un moment où on s'imite particulièrement, c'est quand on est jeune, c'est à l'adolescence, quand on a aussi peut-être des phénomènes d'appartenance qui sont plus forts, qu'on a plus davantage besoin de marquer. Et c'est aussi souvent des nouveaux mots, des nouveaux tics, c'est pour ça qu'on les regarde.
David Castello-Lopez, vous avez emprunté des tics de langage à votre entourage ?
Oui. Je dis par exemple, je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire.
Alors le dis pas.
Alors que immédiatement après, je sais dire en fait. Donc,
c'est une forme d'humilité linguistique.
Peut-être. Ouais. Mais moi, le du coup, en tout cas, le du coup m'agace pas tant que ça. Bien sûr, je l'ai remarqué beaucoup, mais c'est en fait, c'est quoi les alternatives ? C'est donc, par conséquent, et en fait, c'est pas le même registre de langage. Si on veut dire donc ou par conséquent aujourd'hui, de façon un peu sympa.
Vous prendrez un tour de cou, par conséquent, c'est un peu formel,
exactement,
effectivement.
Exactement. Alors que du coup, voilà, c'est en tout cas, ça a cette fonction-là, c'est cool, je trouve.
Il y a une violence quand même dans cette expression, non ? Il y a un coup qu'on porte, là, Laëlia Véron ?
Je pense que...
N'allons pas trop loin.
Je ne sais pas. Alors là, je pense que c'est pas du tout, c'est ce qu'on va dire en linguistique, c'est pas du tout motivé. Je pense que personne ne pense à cette expression-là. Je suis pas sûre qu'on ressente un coup de poing quand on nous dise du coup.
Voici ce que nous écrit Nathalie sur l'application France Inter. Nous avons quatre jeunes enfants qui ponctuent leur phrase de en fait. Et nous avons institué un petit jeu. Dès que l'un de nous le dit à table, on se lève et on fait un tour sur nous-mêmes. On se rassoit et on reprend notre histoire. Ça fait des bons moments de rigolade finalement. Voilà, le plus intéressant, c'est de les repérer. Là, Laëlia Véron, les tics de langage.
Ça, parce que ce qui est important dans les tics de langage, les éradiquer, ça ne veut rien dire, parce que comme j'ai dit, c'est des mots qui peuvent être employés et qui peuvent avoir leur utilité. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours de se rendre compte de comment on parle et d'effectivement en avoir conscience et le maîtriser. Et ça, c'est une manière ludique et intéressante de s'en rendre compte.
Vous êtes convaincue que tout le monde en dit, tout le monde en utilise, quel que soit le milieu et...
Bien sûr, mais ça, c'est pas juste moi qui en suis convaincue. Vous allez demander à n'importe quel linguiste. Tout le monde a ses tics de langage parce qu'encore une fois, ils ont des fonctions. Alors peut-être qu'on peut en parler maintenant.
Allez-y.
La fonction principale qu'on associe au type de langage, si je prends les grandes fonctions du langage telles qu'elles ont été définies par Jacobson, c'est la fonction qu'on appelle fatigue.
Alors fatigue, il faut l'appeler peut-être P-H-A-T-I-Q-E.
C'est ça.
Très joli mot.
La fonction fatigue, et je pense que tout le monde peut très bien voir ce que c'est. C'est que quand on parle, notre langage n'a pas qu'une visée informationnelle. Il va aussi servir à maintenir le contact avec l'interlocuteur. Et donc on a plein de petits mots.
Donc on parle pour dire qu'on est en train de parler.
Bah, on a besoin de ça. Si vous parlez, moi le test que je dis tout le temps aux gens, c'est si vous appelez quelqu'un, en plus vous ne le voyez pas, si vous êtes au téléphone et que la personne ne vous dit rien, ne ponctue pas votre discours de ah ouais,
on a l'impression que ça a coupé.
Ça a coupé. Et si vous ne dites rien, vous allez voir votre interlocuteur vous dit t'es toujours là. Donc c'est bien qu'on a besoin. Et vous voilà, quand vous recevez des invités, si vous sentez que votre invité il a du mal, vous allez faire ah ouais.
Passionnant.
Donc c'est, voilà, incroyable, exaltant. Donc, on voit bien qu'on en a besoin et que ça sert à quelque chose, ça sert à communiquer, tout
L'exemple
simplement.
L'exemple type de la fonction fatigue du langage, c'est le mot « allô ». Il sert à rien, il dit rien ce mot.
« Allô », il dit « je suis là, je suis prêt à t'écouter ». Mais il y en a certains qui sont entre la fonction fatigue et autre chose. Un exemple qui est parlant, c'est aussi « ça va ». « Ça va », vous pouvez l'employer aussi bien pour dire « bonjour ». D'ailleurs, vous croisez quelqu'un, vous dites « ça va, ça va ». Ou vous pouvez l'employer pour dire vraiment « comment ça va ?»
Comment Rarement les gens répondent à la question « ça va » d'ailleurs.
Bah, ça peut être gênant. Si vous vouliez juste dire « bonjour, je suis là » et que la personne dit « non, ça va pas trop », parce que, etc. Vous
non, mais
voulez
je m'en
dire
fous,
non,
en fait, je m'en fous.
C'est ça.
Alors, s'il est un univers où les tics de langage pullulent, c'est bien la vie de bureau. Bonjour Quentin Périnel.
Bonjour Dorothée Barba, bonjour France Inter.
Vous êtes journaliste au Figaro, ou plutôt vous êtes bureaulogue, magnifique néologisme, observateur de la vie des entreprises et des administrations. La rubrique bureaulogue, c'est tous les vendredis dans le Figaro. Et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Les 100 expressions à éviter au bureau et ailleurs ». Alors comme ça, c'est vous qui décidez quelle expression proscrire.
je décide oui et non. C'est-à-dire que j'écoute ce qui se passe autour de moi, j'écoute ce que mes amis disent, ce que mes collègues disent, j'écoute dans la rue aussi ce qui se passe. Il suffit d'entendre un cadre à cravate au téléphone pour parfois passer un bon moment de franche rigolade. Donc c'est, je décide oui et non. Je laisse traîner l'oreille.
Alors, on ne va pas évidemment faire la liste ici hein, des 100 expressions. Quelle est celle qui vous exaspère, que vous haïssez le plus parmi toutes ?
Eh bien, figurez-vous qu'en ce moment, je trouve qu'après cette période de confinement, il y a un nouveau tic de langage. En vérité, il y en a même deux. C'est les termes présentiel et distanciel qui sont absolument dans toutes les bouches et qu'on nous... Moi, j'en peux déjà plus. C'était horrible. L'overdose est déjà là.
Alors, parmi les galimatias de l'open space dans votre livre, vous relevez aussi « il n'y a plus qu'à ». Et moi, je l'aime bien, cette expression « il n'y a plus qu'à ». Je la trouve jolie. Pourquoi vous défrise-t-elle ?
Je pense que si vous l'aimez bien, c'est parce que la phonétique, les sons vous plaisent. Moi, en revanche, les sons ne me plaisent pas du tout. Il y a une expression pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Au début, je ne l'aimais pas. Maintenant, j'ai beaucoup d'affection à force de l'avoir tordue dans tous les sens. Si je reviens vers vous, je la trouve tellement drôle.
Elle est très visuelle, ceci dit. On voit bien la personne revenir.
C'est une valeur sûre, on voit absolument la personne revenir. Et celle-ci, j'ai fini par la prendre en sympathie.
Je dis ça, je dis rien.
Ben je dis ça, je dis rien, ouais, parce que quand on je dis ça, donc je le dis, mais ensuite je n'assume pas en disant je dis rien, voilà. Donc ça me plaît pas là. Comment dire,
c'est la plus belle des manières de parler pour ne rien dire.
Mais oui, c'est la plus belle des manières parce que ben voilà, et surtout c'est la plus belle des manières de se dédouaner.
Finalement, cette tic de langage, Quentin Périnal, c'est une manière de meubler le vide.
Alors c'est une manière de meubler le vide et c'est aussi une manière de se rendre important parce que si j'utilise un jargon incompréhensible, si j'utilise des anglicismes, eh bien c'est pour imiter des personnes importantes, c'est pour imiter tous ces start-upers américains à succès qui font des PowerPoint, des conférences inspirantes. Parler n'importe comment, paradoxalement, eh bien, ça nous rend importants.
Merci beaucoup Quentin Périnal, le bureologue, rubrique à retrouver tous les vendredis dans le Figaro.
Merci infiniment.
Voilà, sans doute n'êtes-vous pas d'accord avec lui, là il y a Véron, je rappelle que vous êtes linguiste. N'empêche que la vie de bureau effectivement est un énorme vivier hein, de tics de langage.
Mais déjà dans ce qu'on a entendu, je trouve que ça mélange des critiques sur des mots très différents. Il nous dit présentiel et distanciel qui pour le coup sont des mots qu'on a beaucoup entendus parce qu'on en a eu besoin pour désigner des réalités nouvelles. C'est pour ça qu'on les entend beaucoup, on a besoin. Imaginez éradiquer ces mots, ça va être compliqué pour nous organiser. On a des expressions comme « il n'y a plus qu'à, je reviens vers vous » qui effectivement peuvent être voilà, des mots qui sont dits souvent. Le jargon spécialisé, les anglicismes, en fait, il nous mélange plein de choses. Et j'ai l'impression que
c'est le propre même de cette étiquette, non ? Des tics de langage.
Surtout, j'ai l'impression que le dénominateur commun, c'est juste qu'il ne les aime pas. Mais en réalité, ce sont des mots qui n'ont rien à voir. Donc, à part avoir son avis, puis pour des gens qui n'aiment pas la répétition, franchement, les bouquins, les 100 tics de langage à éradiquer, il y en a 50 000. Vous en trouvez plein, je suis sûre que c'est limite, on va trouver les mêmes poncifs et les mêmes listes de mots. Donc si on n'aime pas se répéter, pourquoi encore sortir un bouquin sur la question qui mélange tout et n'importe quoi, me fatigue.
Voilà qui est dit, vous avez prononcé le mot poncif. David Castello-Lopez, vous faites une différence entre le poncif journalistique notamment et le tic de langage ?
Bah, je pense que c'est les journalistes ont leur propre tic, et puis comme c'est des gens qui écrivent et qui écrivent tout le temps, ils se retrouvent à avoir des expressions toutes faites qui sont...
Un exemple alors, la tension est toujours palpable pour un journaliste.
Mais oui, c'est souvent un substantif qui va toujours avec le même objectif. Il y en a quelques-uns.
Allez-y.
Il y a manège incessant.
Ah, ça c'est vrai.
C'est savamment orchestré. Une critique acerbe.
Avions qui sont cloués au sol.
Oui.
Aussi, souvent cloués, jamais scotchés ou collés.
Exactement. L'enthousiasme il est toujours débordant.
Ah oui.
L'hommage, il est toujours vibrant, le succès, il est fulgurant. Voilà.
Donc le poncif, c'est quand un adjectif est systématiquement accolé à...
Ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être aussi... Il y a souvent des expressions, en fait, qui au départ sont très créatives et très poétiques et qui, à force d'être répétées, en fait, on voit plus du tout qu'elles sont... Mais il faut qu'elles soient un petit peu poétiques au départ. Moi, je pense souvent à un pavé dans la mare. C'est super beau comme expression. Le mec qui a inventé ça, ça le dit, ou la fille, ça le dit très très bien, ça dit très très bien ce que ça veut dire. Et en fait, on n'entend même plus la figure poétique à force qu'elle soit répétée.
La métaphore s'est épuisée finalement.
Mais oui, elle est toute vite.
Allez, on poursuit ces échanges sur les tics de langage. Dans un instant, la chronique de Vincent Josse, Partir quand même. Une personnalité va nous amener en vadrouille par le simple pouvoir d'une image.
Say, working hard and getting
Venue d'Angleterre. C'était Laura Marling sur France Inter. Avant de poursuivre nos échanges sur les tics de langage et autres poncifs avec mes invités, un petit voyage dans le temps et l'espace.
France Inter, l'été comme jamais.
Partir quand même, la chronique de Vincent Josse. Aujourd'hui, c'est un musicien qui nous fait voyager en images. Il compose de la musique de film, il joue du violon et chante avec son groupe Joseph Joseph. Éric Slabiak est né à Paris dans une famille d'immigrés juifs polonais où la musique est un art de vivre depuis plusieurs générations.
J'ai choisi une photo sur laquelle pose un couple. Ils sont adossés à une fontaine de pierre, habillés de vêtements usés, dans une pose nonchalante, contraste avec le décor. L'un et l'autre sont très beaux, ils paraissent libres, je les aime beaucoup. Ils sont entrés dans mon appartement il y a 2 ans environ, je les regarde presque tous les jours. C'est une photo en noir et blanc, tirant sur le sépia. Les deux personnages qui posent sur cette photo me fascinent autant que celui qui est derrière l'objectif. Il s'agit d'Émile Zola, dont j'ai appris qu'il était un photographe passionné. C'est même lui qui a développé l'exemplaire que je possède. La photo est titrée au dos « Couple de bohémiens » et elle date de 1894. C'est émouvant et précieux. Des tziganes qui posent pour Émile Zola dans le jardin de sa propriété de Médan, dans les Yvelines, en 1894, ça me fascine. Je voyage dans le temps, dans l'histoire. Grâce à eux trois, je voyage également dans mon histoire familiale, car il y a eu, il y a, et il y aura toujours des tziganes autour de nous. Mon oncle, qui était violoniste de jazz et de musique d'Europe de l'Est, a joué toute sa vie avec des tziganes, dont Joseph Reinhardt, Babik, le fils de Django, et bien d'autres. Ma grand-mère, qui tenait une boulangerie dans le Marais à Paris, recevait tout ce monde dans l'arrière-boutique des après-midi entiers. Elle leur offrait le thé, le café, les pâtisseries, et eux, ils jouaient de la musique, chantaient et s'amusaient. Lorsque je regarde ce couple de bohémiens sur la photo prise par Émile Zola, je vois dans leur regard des routes et des paysages à l'infini. Beaucoup de rencontres, peut-être, des jardins, des fleurs, des saisons, des régions, des premières fois. Il doit y en avoir beaucoup des premières fois quand on voyage. Et j'aime les premières fois.
« Éric Slabiak, violoniste et chanteur du groupe Joseph Joseph, au micro de Vincent Josse, pastille réalisée par Karen Deshayes. Et on retrouve le grand atelier de Vincent Josse tous les soirs en ce moment sur France Inter à 22h. Il est 9h40, vous écoutez France Inter en direct, l'été comme jamais. On parle des tics de langage ce matin et Monique est au bout du fil. Bonjour à vous.
Oui, bonjour. Bonjour l'équipe.
Est-ce qu'il vous agace, vous, les tics de langage?
Un petit peu. Il y en a certains qui m'agacent. Je dois être rapide, m'a-t-on dit.
Ah, dites-moi.
Alors, je vais vous dire. Écoutez, c'est quand même un peu surréaliste tout ça. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui m'agacent énormément. Enfin, bon, je comprends. Enfin, c'est quand même exaltant de vous entendre. Alors voilà, je vous ai fait un petit fleurilège,
voilà.
de tous ces mots qui reviennent. Le écoutez, surréaliste, je ne peux plus le supporter.
Est-ce que vous êtes en train de dire que vous l'entendez là ce matin dans l'émission ou en général dans la vie?
Non, pas dans l'émission. Mais
non,
c'est
non, on est bien.
On a eu très peur.
Non, vous n'êtes pas trop bien,
monsieur. Je prie, excusez, madame.
Parce que j'ai entendu de vous, par exemple, en fait et truc. En fait, je le dis pas trop, mais le truc, oui. Mais oui. J'ai le droit de le dire. Je suis un peu âgée et parfois le vrai mot, n'arrive pas immédiatement à l'esprit. Alors bon, voilà, on remplace par truc, qui est bien commode. Mm. Mais enfin, ça c'est sûr. Donc voilà.
Ça c'est bien aussi. Donc voilà, merci beaucoup.
Voilà. Alors il y a le voilà, il y a le bon, ça c'est sûr, mais c'est sûr, c'est pas. Alors il y a des mots qui paraissent peut-être d'éthique, mais non, c'est sans doute dans votre livre vous avez fait différentes catégories de ces mots là, parce que il y en a qui sont vraiment des remplissages. Hein.
Très bien, merci beaucoup Monique. Malheureusement, le temps est compté, on ne pourra pas faire un inventaire exhaustif. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre appel sur France Inter. J'ai le droit de le dire, je suis âgée, vient de nous dire Monique. C'est intéressant ça comme réflexion, là, Elia Véron. Il y a un rapport important entre la génération et le tic de langage.
En plus, là, il me semble que c'était à propos de trucs. Voilà, oui. Le fait de ne pas trouver le mot et de dire truc, ça arrive à n'importe quel âge. Hein, le fait de ne pas trouver ces mots, mais c'est intéressant le fait de trouver une excuse, parce que effectivement, le tic de langage, ça peut être à des moments quelque chose dont on a besoin quand on cherche ces mots, quand on attend de voir si l'autre va réagir. Ça peut être aussi effectivement une manifestation d'insécurité linguistique. Et dans ces cas-là, on a besoin de se trouver des excuses, d'en trouver des excuses en tout cas. Et ça pourrait être, par exemple, je suis âgée.
Alors j'aimerais qu'on aborde à présent un sujet très important, c'est le E préposal.
Oui,
c'est
d'ailleurs,
vous...
dont Monique est
adepte.
Ah, c'est vrai. Alors, on va illustrer après. J'avais pas remarqué. David Castello-Lopez, vous nous l'expliquez dans la pastille dont on parlait à l'instant. Depuis quand ça existe, votre émission sur Canal+.
En français, il y a des mots qui finissent par un, genre grain, chemin, soupe au pain. Et puis, il y a aussi des mots qui finissent pas du tout par un, genre
ciel, objectif, épaisse, front national.
Et pourtant,
ciel, objectif,
épaisse, front national, recette,
clientélisme, discours.
Ce tic de langage qui consiste à mettre des « un », des « en » ou des « on » à la fin des mots a un nom scientifique.
Le « e » préposal. « E » parce qu'au départ c'est une déformation du « e » muet, comme dans Brigitte. Préposal parce qu'il a tendance à être prononcé avant une pause dans la phrase.
Faut pas crier comme ça, David Castello-Lopez. Là, Elia Véron, c'est fascinant, le « e » préposal, il est partout. Moi, je croyais personnellement, et là c'est la Lyonnaise qui parle, que c'était l'accent parisien. Pas du tout?
Non, on peut pas le lier à une région. Effectivement, il y a eu certaines études.
Vous êtes sûre?
Il y a eu pas mal d'études. En tout cas, mais moi j'aime beaucoup cette pastille, je tiens à le dire, je l'utilise à la fac dans mes cours d'introduction aux sciences du langage. Tous mes L1 l'ont entendu. Mais effectivement, ma collègue Maria Candéa a pas mal travaillé dessus, et de manière un peu étrange, c'est des effets de mode qu'on n'est pas arrivé à lier à une région spécifique. D'ailleurs, c'est dans plusieurs aires de la francophonie, ou à une classe sociale spécifique. Après, c'est souvent quand les gens vont parler en public ou dans un contexte de représentation où on va avoir besoin de faire des pauses et de réfléchir.
Et c'est pas, ils n'arrivent pas à la fin de tous les mots. Certains mots sont plus propices au e préposal que d'autres.
Ça va être, après, on a le spécialiste ici.
Non, moins que vous.
Mais ça peut être effectivement après ce qu'on appelle souvent. Normalement, il y aurait des mots qui se terminent par des e muets, voilà. Et avec une pause, on les prononcerait. Mais après. Et c'est assez répandu de plus en plus. Mais moi, ce que je trouve très intéressant avec le préposal, c'est qu'à un moment, ça a été un effet de mode, ça a été massif. Et qu'est-ce qui se passe avec les effets de mode dès qu'ils sont remarqués et stigmatisés?
Ça devient ringard.
Ça devient ringard, exactement. Mmh. Et là, il s'amenuise et il disparaît.
David Castello-Lopez, vous avez enquêté sur le sujet et vous avez voyagé d'ailleurs pour ça. Hein.
Tout à fait. Je suis allé au Danemark voir Anita Berit Hansen qui, bah, il se trouve que les spécialistes mondiales du préposal, elle est danoise et elle habite à Copenhague.
Qu'est-ce que vous a-t-elle dit?
Moi, je cherchais depuis quand ça existe.
C'est une forme de névrose, hein, oui, c'est, pas dit
c'est
en passant.
Complètement une névrose du temps qui passe. Elle m'a parlé des origines du préposal. C'est difficile de savoir exactement quand c'est apparu, mais ce qu'on peut savoir, c'est la première fois où un universitaire l'a remarqué chez quelqu'un. Et ça, c'était en 1972.
Voilà. Auteuil, Neuilly, Passy, des inconnus, c'était les années 90. Oui. Salut, hein, tu vas bien. Ce qui prouve que c'est pas récent du tout, effectivement, oui. Là, Elia Véron.
Non, c'est pas récent et c'est un effet de mode qui s'est de plus en plus répandu. Après, on a eu certaines suppositions. Pourquoi cette période-là? Est-ce que c'était après mai 68? J'avais lu pas mal d'analyses autour de ça. Mais c'est aussi à des moments le mystère un peu des effets de mode langagiers. Il y a des mots comme ça pour un autre tic de langage. C'est vachement. Quand on y pense, ce mot est très très étrange. Sa formation est très étrange.
Et on la voit la vache
très
là,
à la mode.
Tout de suite.
Bah voilà. Au fait, quand on y pense, vachement, non, que vient faire la vache dans cette histoire? Et c'est un mot qui a été très à la mode, qui a été un tic de langage, comme on dit, et qui ne l'est plus vraiment.
David Castello-Lopez.
Oui, moi ce que je voulais dire sur le préposal, c'est qu'effectivement, en fait, on sent que c'est de pire en pire, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un comme dans Philippe, voilà. Après, c'est devenu des trucs où il n'y a pas de e, comme Eric, là on met un. Et après, c'est devenu, on l'entend avec derrière des sons voyelles, et c'est ce qu'on fait les inconnus. Tu vois. Et après, il y a un truc, il se compose avec un autre.
Donc, c'est plus un e d'ailleurs du tout.
C'est un an, et il se compose avec un autre tic qui est celui de mettre des i à la fin. Bon, tu vois. Tu vois. Merci.
Existe-t-il des gens qui font ça?
Merci.
Ah oui, merci.
Oui, il y a des universitaires qui étudient ça, c'est les sociologues.
Et ce qu'a fait Monique, c'est quand elle nous a parlé tout à l'heure, elle a associé un hi à un préposal. Elle a dit, je ne sais plus exactement quel est le mot, mais elle a dit pressé.
Pressé.
Je comprenais plus ce qui était de la parodie ou ce qui était son langage, au fait. Donc ça m'a perturbé.
David Castello-Lopez, ça nous renvoie aussi à quelque chose qu'on appelle le vocal fry. Je le prononce évidemment très mal parce que mon accent anglais est terrible. De quoi s'agit-il?
Le vocal fry, c'est un truc qui est très anglo-saxon et en particulier américain et qui est une manie de certaines personnes, souvent des femmes, de ce que j'ai compris.
Attention à ce que
vous dites. Désolé, c'est pas moi qui le dis. mais après, c'est sans doute pour des raisons particulières, mais disons que ça a été remarqué particulièrement chez les femmes, et en fait c'est quand on parle en dessous de son registre et qu'on veut baisser la voix, on fait et on finit par parler comme ça. Oh my god, it's amazing.
Ah, c'est très
so
américain.
Nice, oh so nice god. To be here. Et c'est un truc qui, encore une fois, je trouve fascinant parce que mystérieux, c'est-à-dire que dans les années 60, 70, 80, personne ne parlait comme ça, et tout à coup c'est une épidémie, c'est-à-dire que c'est tout le monde, et les people do podcasts, you know, on radio in America, they all talk like that.
I was like, oh my god. Là, Elia Véron, on n'est plus dans la linguistique, là, c'est de la phonétique.
Ah ben oui, c'est de la sociolinguistique, la sociophonétique. Mais effectivement, c'est un effet de mode qui a été remarqué et qui est surtout stigmatisé chez les femmes. Ça va avec le stéréotype de la Valley Girl. Ouais.
De la quoi?
De la Valley Girl, la fille de la Silicon Valley, va parler, qui va effectivement craquer sa voix. Et notamment, c'est associé à des personnalités comme les sœurs Kardashian qui vont parler avec ce vocal fry. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est stigmatisé chez les femmes, notamment chez les présentatrices télé et radio. On trouve toujours un moyen de critiquer leur manière de parler, alors qu'il est présent chez les hommes, mais chez les hommes, quand on a étudié les réactions, c'est plutôt bien vu, ça fait viril.
Ouais.
Et donc, en fait, c'est le même phénomène linguistique, phonétique, mais qui est plus stigmatisé chez les femmes que chez les hommes, quel hasard.
L'éthique de... hasard, effectivement. L'éthique de langage sont parfois très chics. Voici ce que nous écrit Thierry. J'ai eu un professeur de français au lycée qui utilisait « n'est-ce pas » à chaque fin de phrase, n'est-ce pas ? Même en lecture de texte, le jeu pour les élèves était de les compter. Emery nous écrit ceci. « Il y a des mots répétés par d'autres qui peuvent faire du bien. J'adorais entendre Jean d'Ormesson dire « c'est épatant ». Il y avait une jubilation dans son regard qui était ragaillardissante, nous écrit cet auditeur. Voilà, on parle depuis tout à l'heure de la distinction sociale qu'implique cet emploi et cette stigmatisation du tic de langage. Il y a une forme de honte aussi parfois quand on les emploie, là, Elia Véron.
Oui, mais effectivement, suivant le locuteur ou la locutrice, on va plutôt les stigmatiser ou au contraire les valoriser. Moi, je travaille en stylistique. Quand on étudie le style d'un auteur, on essaie de repérer des stylèmes, c'est-à-dire des choses qui reviennent, mais voilà, ça va être des stylèmes, ça va être valorisé.
C'est moi moins stigmatisant, style.
Ah bah oui, super. Mmh. Bah, déjà, le mot style, dès qu'on parle de style, ça a un côté valorisant. Mais voilà, l'exemple des profs, ça c'est quelque chose que tous les élèves ont fait. Noter les...
Mettre des croix à chaque fois
qu'ils
disent, n'est-ce
pas. À chaque fois qu'un prof dit quelque chose. Mais soit on va considérer ça comme une sorte de maladie, de façon de mal parler, soit au contraire, on va considérer ça comme un idiolecte, quelque chose qui va être caractéristique.
Un idiolecte,
c'est votre parlure spécifique, votre manière de parler spécifique qui va vous distinguer et qui va faire que c'est agréable de vous entendre, de vous reconnaître. Et ça peut être votre ton de voix, votre phrasé, ça peut être certains mots. Voilà, c'était l'exemple à propos de Jean d'Ormesson.
Vous êtes spécialiste de Balzac. Là, Elia Véron, vous avez écrit une thèse sur le trait d'esprit dans la comédie humaine, d'éthique du langage chez ce cher Honoré.
Eh bien oui, par exemple, il y en a un qui est connu, enfin, très connu chez les Balzaciens, hein, enfin, faut se calmer. C'est ce qu'on appelle l'exophore mémorial, c'est-à-dire qu'il va toujours nous dire c'était une de ces soirées où, ce qui est une manière de réveiller dans l'esprit du locuteur une sorte de souvenir ou de faux souvenir. Vous voyez ce que je veux dire, ce type de soirée, ce genre de soirée.
Exophore mémorial, on retient cette expression, c'est très joli. Vous l'employez couramment, l'exophore mémorial, David Castello-Lopez?
J'ai appris au moins 5 mots avec des racines grecques là et je suis très content, je vais ressortir très bien. La catacrèse.
Quand on parlait des images qui sont figées, quand elles sont extrêmement figées au point qu'on ne voit plus qu'il y a une image, c'est une catacrèse. Par exemple, le pied de la chaise. Quand vous dites ça, ou le pied de la table, vous pensez plus à un pied, mais au départ, c'est une image.
Ah, effectivement, oui. Et le pavé dans la mare, c'est une catacrèse. On voit plus le pavé,
c'est une catacrèse,
et on voit plus
la mare.
Pas encore, parce qu'on voit encore l'image.
Oui. Personne ne voit plus la mare ni le pavé, franchement.
c'est en voie de catacrétisation.
Je voudrais demander aux invités, nous écrit Coralie, ce qu'ils pensent de « J'avoue quand la suite n'est pas un aveu du tout ». Là, Elia Véron.
Ah oui, c'est le fait que le mot n'est pas à prendre au sens propre, ce n'est pas une confession, effectivement, c'est une manière de montrer son approbation. Et j'avoue, c'est un très bon exemple de fonction fatigue. Quand quelqu'un va parler,
vous
allez
ponctuer
ça.
On rappelle, la fonction fatigue, c'est pour dire qu'on est en train de parler. Hein.
C'est ça, c'est pour maintenir le lien avec l'interlocuteur. Et quand quelqu'un vous raconte une histoire, vous allez faire « Ah ouais, j'avoue, ah ouais, j'avoue ». Ben voilà, ça va l'encourager, il va continuer son histoire, il va se sentir...
Et c'est plus intense qu'un simple « oui » ou « j'avoue ».
Voilà, à des mots, on varie, mais on le fait naturellement. Vous sentez si votre interlocuteur a besoin de beaucoup d'encouragement ou pas, si un petit va suffire et s'il va falloir sortir le j'avoue.
S'il a besoin d'aveu. Ouais,
voilà. J'aimerais qu'on dise un mot rapide sur l'Académie française. Là, Elia Véron, je crois savoir que vous la portez pas toujours dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prise de position importante sur le féminin, de la Covid plutôt que le Covid?
En fait, pour une fois, parce que l'Académie française, son principal...
Il y avait un petit côté saugrenu, voire décalé, en pleine crise sanitaire, cette prise de position, attention, c'est féminin.
Alors, pour dire vraiment rapidement, ce qu'on reproche à l'Académie française, c'est de ne pas avoir de linguistes et d'avoir donc des prises de position qui n'ont généralement rien de linguistique. Pour le coup, il y avait là une justification linguistique, le fait que ça renverrait au mot anglais, qu'on traduirait par maladie. Bref, il y avait une justification linguistique, mais l'Académie française a montré que même quand elle essaye de sortir des arguments linguistiques, elle est à côté de la plaque, parce que tout simplement, elle l'a fait 2 mois après, et c'est trop tard.
Le Covid
était totalement ancré dans l'usage, et autant on peut essayer d'accompagner l'usage, autant quand l'usage est implanté comme ça, quand tout le monde le dit, quand les médias le disent, voilà, quand c'est partagé, ça paraissait à côté de la plaque et ça l'était.
Anne-Cécile Perrin, la réalisatrice de L'été comme jamais, chante cette chanson à longueur de journée. Cette chanson s'accroche au cervelet, alors remettons une pièce dans la machine pour le plaisir. Voici Benjamin Biolay sur France Inter.
Pas froid, ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta paix? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. Le téléphone comme ça, je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi.
carbone trois fois. Puis parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Et le concert de Benjamin Biolay à la Maison de la Radio la semaine dernière est toujours disponible à la réécoute sur le site de France Inter, mais plus pour longtemps. Profitez-en. Une dernière question à mes deux invités à présent, Laëlia Véron et David Castello-Lopez. Question rituelle dans cette émission. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On commence avec vous, David Castello-Lopez.
Oui, j'ai changé d'avis sur la souffrance des animaux. Il y a une petite dizaine d'années, je me souviens d'avoir discuté avec des gens qui étaient qui militaient pour les animaux et leur dire, bah ouais, super, on va s'intéresser aux animaux et pourquoi pas ma salade, pendant qu'on y est, la malle, ma salade aussi.
La souffrance de la carotte.
Voilà, j'étais con, en fait. Voilà. et en fait, j'ai changé d'avis parce que j'ai pensé, en particulier à la souffrance des animaux, qu'ils ont beau ne pas avoir la même conscience que nous d'exister, il n'empêche que leur souffrance physique, c'est exactement la même que la nôtre.
Vous êtes devenu végétarien?
Pas tout à fait encore, mais j'y pense et je suis déjà content d'y penser.
Ça s'appelle la dissonance cognitive, je crois. Laëlia Véron, même question.
J'ai changé d'avis sur beaucoup de sujets, je pense en politique par rapport au féminisme, mais je pense que majoritairement c'est quand j'ai changé d'avis sur le fait d'avoir un avis en découvrant les sciences sociales. En découvrant les sciences sociales, je me suis rendu compte que je croyais avoir des avis et que je répétais beaucoup d'opinions sans y réfléchir. Et là, bon, sans doute j'en répète encore, mais j'essaie d'y réfléchir davantage et de réfléchir à ce que c'est que de construire un avis. Je pense que c'est important.
Très jolie mise en abyme, elle a changé d'avis sur le fait d'avoir un avis. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin.
Merci.
Laëlia Véron, votre livre coécrit avec Maria Candéa, Le français est à nous, édition de La Découverte, et votre podcast chez Binge Audio, Parler comme jamais. David Castello-Lopez, on vous retrouve sur Arte, dans l'émission 28 minutes, présentée par Elisabeth Quin, avec une pastille baptisée
Intéressant.
Et un nouvel épisode de Depuis quand sur Canal+,
pour tout de suite, à la rentrée probablement.
À la rentrée. Merci encore à tous les deux et très bonne journée. L'été comme jamais se poursuit jusqu'à 11h et le programme de la deuxième heure d'émission, c'est... Le silence et ses nombreux bienfaits.